on va réceptionner une autre énergie. Par exemple, une énergie un petit peu plus créatrice. Prenons deux rayons, le troisième et le septième, qui sont vraiment des rayons de création et d'actes de création. Et bien, lorsque cette énergie en provenance de ces rayons-là, lorsque cette énergie va être réceptionnée par l'homme, lorsqu'elle va traverser l'homme, si l'homme ne s'est pas mis dans le centre, qui ne s'est pas dégagé du jeu des contraires, eh bien, il va devenir puissamment sexuel. Et il va vouloir procréer. Même si dans son esprit objectif, il s'agit d'éprouver du plaisir et de la satisfaction physique et sensorielle, c'est quand même la procréation, l'instinct de procréation, qui est la base même de l'impulsion. Il ne pourrait pas y avoir d'accouplement s'il n'y avait pas la loi de la procréation. Les hommes et les femmes regarderaient leur sexe comme étant des choses intrigantes, mais ne pouvant pas comprendre à quoi cela sert. Pour que la race ait lieu, il y a donc une loi inscrite dans la race et que les hommes appellent l'instinct de procréation. Lorsque donc l'on analyse le cheminement de cette énergie en provenance du troisième et du septième rayon et que l'on comprend qu'il existe cet instinct de procréation pour que la race se conserve et que la vie ait lieu, il est facile de comprendre comment l'homme va être, ou la femme, mais je veux dire simplement le genre humain, comment le genre humain va être donc sans cesse attiré par le sexe et voudra fonctionner sexuellement. Mais le problème, ce n'est pas le sexe. Le problème, ce n'est pas la jouissance. Ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas la délectation. Car tout ceci n'est que l'effet second d'une plus grande cause. Et la grande cause, ce n'est pas d'être pourvu de sens. Car encore une fois, si le disciple imagine un monde où Dieu aurait eu l'idée vicieuse de pourvoir l'homme de plusieurs sens, de lui donner la capacité de jouir de ses sens et lui dire « Ah, tu vois, j'ai envie de m'amuser parce que je suis Néron. Je t'ai donné des sens, mais si tu veux la vie éternelle, si tu veux me connaître, moi qui suis Dieu, le Dieu des hommes, eh bien tu ne devras pas exercer tes sens. Ha, ha, ha. Comme nous allons nous amuser, toi et moi, pendant des millénaires, et comme tu vas entrer dans tes sens, comme tu vas t'y vautrer comme un cochon que tu es, parce que tu es un cochon, n'est-ce pas? Je t'ai fait cochon, d'ailleurs. Alors, si l'homme avait un peu de bon sens, tout cochon qu'il est, il dirait à Dieu, mais il paraît que tu m'as fait à ta ressemblance. Vous voyez donc que tout ce que l'homme peut imaginer lorsqu'il fait comme cela, courir sa pensée sans véritablement réfléchir et approfondir, tout ce qu'il imagine peut être détruit même pas par la sagesse, simplement par la logique d'un enfant. C'est pourquoi Jésus a dit « Redevenez simples comme des enfants. » Parce que si vous arrivez à retrouver la logique qui est la pureté de l'enfant, vous arriverez à démonter tout ce qui se construit en vous d'illusoire et d'archaïque, de superstitieux et de faux. Vous n'aurez pas besoin de la foi et des livres. Vous arriverez à vous dire « Mais cela ne semble pas vrai. » Parce que si cela est comme cela, cela veut dire que cette autre chose ne peut pas être comme je le crois ou comme les autres le croient. Donc, il n'est pas question d'imaginer des sens qui ont été créés pour piéger l'homme ou pour représenter des moments initiatiques dans la vie de l'homme. Il n'existe aucune initiation. Je vous le dis, et je peux vous en parler, Je les ai vécues. Et pour y être passée, je sais combien j'en ai ri. Mais j'en ai ri. Parce que comme tout le monde, pendant des centaines et des centaines d'années, j'ai cru que je devais construire ma divinité. Et j'ai imaginé Kundalini, et j'ai imaginé Shakti, et j'ai imaginé mes chakras, et j'ai imaginé mon âme et ma personne, et le combat entre les deux, avec en haut le grand Dieu, avec en haut mon moi suprême, qui au balcon attendait qu'en bas la bagarre cesse. J'ai aussi imaginé ces choses, je les ai pensées, je les ai crues, et j'ai travaillé grâce à ces choses. C'est pourquoi je ne me moque pas de vous, pas plus que je ne me suis moquée de moi-même quand j'ai vu que j'avais tort. Parce que ces chimères m'ont quand même aidée à avancer sur le chemin. Ces rêves m'ont quand même propulsée à aller plus loin. Ils m'ont donné le goût de faire les choses, pensant qu'un meilleur goût m'attendait à la fin du chemin ou à un croisement X ou Y. Et c'est dans l'attente, dans l'espoir de ce goût-là que j'ai marché. Le moment d'humour de toute la vie, c'est lorsqu'arrivé justement au bout du chemin ou au croisement, eh bien l'on s'aperçoit que toute la cuisine que l'on avait entreprise, tous les épices que l'on avait mis, méditation, yoga, visualisation, énergie, chakra, maître, prière, dogme, église, initiation, etc. Eh bien, on s'aperçoit que toutes ces choses, non seulement sont inexistantes, mais en plus n'ont aucun lieu d'être à l'endroit où l'on vient chercher la vérité. Mais l'homme est fait de telle manière que sur le chemin, si on veut qu'il avance, nous sommes obligés de lui laisser l'imagination fertile, le rêve fertile et la projection facile. Si nous venons et connons de la vérité, nous disons « mais non, toutes ces choses n'existent pas. Écoute, l'on t'a dit, l'on t'a tout expliqué à propos des initiations, on t'a expliqué ce que sont les plans, et que ces initiations étaient des clés d'accès à certains plans, et l'on t'a dit qu'en toi, il y a différentes vibrations, qu'il y a l'état de la personnalité, l'état de l'âme, l'état de la monade, du moi suprême, qu'il y a des tas d'univers qui se rencontrent en toi, qu'il existe l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, l'énergie des étoiles, et que tout ceci, peu à peu, tu dois arriver à le contrôler. On t'a dit toutes ces choses, et bien moi je viens te dire que tout ceci n'existe pas, que c'est absolument faux. Mais si je suis un vrai sage, je vais te dire tout ceci est faux. Mais pour te prouver ma sagesse, je devrais te dire aussi que c'est une erreur nécessaire, c'est un mensonge nécessaire. Sans cette erreur, sans ce mensonge, sans ce rêve, tu ne serais pas sorti de ton œuf, de ton cocon. Tu n'aurais pas commencé à marcher. Tu n'aurais pas commencé à penser comme un dieu. Tu n'aurais pas essayé d'être un dieu. Alors on t'a dit, on t'a expliqué de nombreuses choses. Et ces choses ne sont pas fausse en elle-même. Mais tout ce que tu as pu imaginer à propos de ce que l'on t'a dit, toute l'interprétation qui en a été faite, celle-là, elle est fausse. Alors je te le dis, tu veux Dieu, que ce soit la pleine lune du Visak, mais à chaque matin où tu te réveilles, à chaque instant où tu rencontres ton voisin, ou bien où tu te promènes dans la ville. Tu veux Dieu partout, tout le temps. Alors je te le dis, tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Tu n'as pas besoin de le prier, de le supplier. Si tu savais la vérité, tu comprendrais que non seulement il est là, ici et maintenant, mais qu'en plus il te fait la plus grosse farce du monde, qui est d'être toi et de ne pas t'en apercevoir. Bien sûr, quand on dit aux disciples qu'il est Dieu, il ne le comprend pas profondément à l'intérieur de lui-même. Aucun homme n'est capable de le comprendre. On peut l'admettre intellectuellement, mentalement, on peut s'imaginer, admettre le concept et se dire « oui, d'accord, je suis Dieu, mais je serai Dieu un jour. Pour l'instant, je ne le suis pas. Je suis X ou Y et j'ai plein d'ennuis à la maison. Je suis débordée de problèmes. Je suis au chômage. Ou bien il se trouve que je suis attachée à l'alcool ou attachée à ma femme parce que ma femme a des hanches superbes et que ça, c'est divin. Je suis attachée à tellement de choses que je ne me sens pas le mauvais goût d'imaginer que je puisse vraiment être Dieu. C'est impossible. Peut-être je le deviendrai un jour. Une fois que j'aurai eu le courage d'être un moine, de dire adieu à ma femme, à ma bouteille, à ma cigarette, à mes copains. Peut-être là, oui, je le serai. Mais en attendant, Dieu, je t'en prie, laisse-moi encore m'amuser et être un homme. Même s'il y a du désespoir à être un homme, laisse-moi ce rire désespéré. C'est comme cela que parlent les disciples. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas combattre une tendance, qu'ils sont humains malgré tout. Mais le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas s'apercevoir un jour que finalement on est un homme et que l'on n'a pas envie, parce que ce n'est pas le quart d'heure, que l'on n'a pas envie d'être Dieu et que Dieu on le sera plus tard. Ce n'est pas là le problème. Dieu est un homme. Tu es Dieu et tu es l'homme. Dieu est un homme. Comprends bien cela. Il n'y a pas toi l'homme et toi le Dieu un jour plus tard. Ou bien simplement 5 minutes par jour quand tu pries ou médites. Dieu est humain en toi. Il n'y a pas un Dieu en haut intact et un humain en bas tout crasseux. Dieu est homme. Maintenant, tu peux admettre que tu es Dieu parce que c'est Dieu qui est un homme. Qui est donc toi? Que faire maintenant avec cette divinité? Si l'on admet que c'est Dieu qui est l'homme, que c'est donc Dieu qui va aller tuer son voisin, que c'est donc Dieu qui va aller voler une banque, que c'est donc Dieu qui va faire des orgies sexuelles, que c'est donc Dieu qui va se goinfrer de pâtés, de volailles, de truffes, de spaghettis, de sauces, de crème. Si l'on admet donc que c'est Dieu qui va faire toutes ces choses, comment concevoir la spiritualité? Comment concevoir la vie elle-même? Comment imaginer ce qui est vrai enfin une bonne fois pour toutes? Parce que grand frère, je te suivais. Tant que tu m'étais Dieu parfait au ciel et que tu me jugeais, moi, dans ma personne, je pouvais te comprendre que tu me juges, je l'admets, je suis si imparfait. Mais il faut que tu laisses Dieu en haut. Il faut que tu laisses mon âme en haut dans sa perfection. Comment veux-tu que je comprenne si tu me dis que Dieu est en train de tuer son voisin, donc un autre Dieu, donc lui-même? Comment veux-tu que je comprenne? Comment veux-tu que j'admette que c'est Dieu qui est goinfre? Que c'est Dieu qui se saoule? Que c'est Dieu qui se drogue? que c'est Dieu qui se suicide. Comment veux-tu que je le comprenne? Fais-moi comprendre. Je ne demande qu'à comprendre. Alors, si tu ne demandes qu'à comprendre, je vais te le dire clairement. Dieu est un goinfre. Dieu est un violeur, un obsédé sexuel, un assassin. Dans la mesure où Dieu est toute innocence, et lorsqu'il est descendu et qu'il a vu ce jeu entre les ombres et les lumières, comme un enfant, il a dit « Oh, c'est beau, ça bouge. Qu'est-ce que c'est? Je vais voir, je touche. » Et à l'instant où il a touché, il est devenu ce qu'il a touché. Quand il a touché le mal, il est devenu le mal. Quand il a enfin touché le bien, il est devenu le bien. Mais il n'était toujours pas Dieu. Pour être Dieu, il faut être pur. Donc au-delà du bien et du mal, il faut être un. Donc au-delà de la dualité, au-delà du bien et du mal. Alors vous pouvez me répondre, bon, Dieu est innocence. Et puis, je ne sais pas pourquoi, si je te suis bien grand frère, un beau jour, il y a un Dieu peut-être un peu plus grand que lui, qui lui a donné un coup dans l'épaule, qui lui a dit, maintenant je t'envoie sur la planète, je te balance dans la dualité, voyons ce que tu vas faire. Est-ce que je te suis grand frère? Eh bien, je te dis non, si tu imagines cela. Tu ne me suis pas du tout. Alors, reprenons. Dieu est toute innocence. Je t'ai dit cela. Et c'est ça le mot important. Ne commence pas à interpréter pour essayer de me comprendre. Tu vois, tu sortais déjà le défaut des hommes. Tu faisais déjà des projections. Tu essayais déjà d'imaginer de construire ta tour de Babel. Alors je suis obligée, avec la foudre, de venir démolir ta tour. Et je te dis non. Quand tu te trouves face à une énigme ou une parole, n'essaie pas de la comprendre. Cherche le mot important, le mot énigmatique, et médite là-dessus. Rentre là-dedans. Je t'ai dit, Dieu est toute innocence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme je suis un gentil grand frère et que je veux t'économiser des heures de méditation, je vais essayer de te le faire comprendre par ton esprit. Ce qui n'empêche pas que tu doives méditer quand même, pour comprendre par le cœur ensuite. Dieu est toute innocence. Cela veut dire qu'il est cette unité, qu'il n'a pas de préférence pour le bien ou le mal, qu'il n'est pas capable de concevoir le bien ou le mal. Alors déjà, je vois les esprits prêts à interpréter et qui me disent, mais s'il n'est pas capable de le concevoir, alors dis-moi pourquoi il l'a créé? Parce que puisqu'il est le créateur, c'est forcément lui qui a créé le bien et le mal. Alors là, je te réponds, à celui qui pense de la sorte, que le problème, ce n'est pas de comprendre pourquoi Dieu a créé le bien et le mal, pourquoi il a créé le noir et le blanc, ou la dualité. Le problème, c'est de savoir pourquoi toi, tu crois que le bien et le mal sont le bien et le mal. Et si tu arrives à comprendre cette chose, tu arriveras à penser comme un Dieu et à être Dieu. Je te dis que le bien et le mal n'existaient pas, qu'il existait des énergies positives ou négatives, et que la vie, depuis le centre, jouait avec ces deux énergies pour que la forme soit. C'est complètement différent. Cela ne veut pas dire que le bien et le mal existent comme des principes divins et en Dieu. Cela veut dire que pour créer le monde, pour créer ses plans les plus bas, comme ses plans les plus subtils, à partir où les dimensions sont créées, il faut qu'il y ait une friction, une forme. Même très éthérée, très subtile, ne peut pas exister s'il n'y a pas une friction. C'est impossible. Et la race suit exactement ce même processus, ressemble à cette loi dans le fait que pour poursuivre la vie sur la Terre, la race un jour a dû se séparer en deux sexes opposés. Pourquoi les deux sexes opposés ? Réfléchissez. Et si vous êtes encore une fois un disciple qui ne sait pas réfléchir par la logique, un disciple qui s'est laissé remplir la tête par tous les dialogues imbéciles de ceux qui croient à la dualité, alors vous allez dire, bon ben, s'il existe le masculin et le féminin, c'est encore un coup du bon Dieu. C'est encore comme une épreuve initiatique. Mais si Dieu vous aime, s'il veut tant que cela vous apporte le bonheur et le paradis sur la terre, il aurait pu immédiatement vous faire androgyne et vous laisser androgyne. Plus de problème de sexe, qui est la grande pierre d'achoppement pour les disciples, du moins c'est ce qu'ils croient. Le couple existe parce que la race, qui elle est quelque chose de physique, de concret, qui appartient au plan physique, la race est donc une forme, et dans sa création et la maintenance de sa création, elle doit obéir à la même loi que celle qui a créé l'univers lui-même. La race ne peut pas avoir lieu sans obéir à cette loi, car la race est issue de cette loi. Et la loi, c'est quoi? C'est que le 1, lorsqu'il veut créer, ou lorsque la création sort de lui, le 1 doit se séparer en 2 pour créer une friction. Et de cette friction, l'univers a lieu. C'est pourquoi le monde a l'air si contradictoire. Regardez les éléments, ils sont incompréhensibles. Qui a pu essayer de comprendre véritablement, fondamentalement, ce qu'est le vent? Vous connaissez le vent parce que vous le sentez sur votre peau, vous le voyez abattre les arbres ou claquer les fenêtres et les portes. Mais qui sait ce qu'est le vent? Qui sait ce qu'est l'eau? Vous connaissez l'eau et vous l'avez admise une bonne fois pour toutes, mais qui sait ce qu'est l'eau? Qui sait ce qu'est la matière? Et surtout, ce que sont les mouvements de ces éléments? Tout paraît contradictoire. Le monde est une grande contradiction. C'est une contradiction tellement évidente que cela paraît même être du plus mauvais goût. Mais comment ça? Est-ce que Dieu n'aurait quand même pas pu cacher un peu mieux son jeu? Même dans la mer, c'est évident qu'il y a les contraires. On y trouve le gentil dauphin et puis d'un seul coup, le méchant requin. Tu n'aurais pas pu faire les choses un peu plus discrètement, toi le Créateur? Tout est contradictoire. Vous avez une main droite et une main gauche. Un pied droit, un pied gauche. De la bonne humeur, de la mauvaise humeur. De l'amour, de la haine. De la vie, de la mort. Si vous vous arrêtez à cette contradiction, vous ne pouvez pas comprendre le monde ni vous comprendre vous-même. C'est terminé. Tout est annulé. Évolution bloquée. Sagesse rompue. Lumière dissoute. Le monde est autre chose. Le monde est une apparence parce qu'il est le jeu de ses contraires. Si vous vous dites, voilà, ici est mon monde, alors forcément vous êtes cette innocence qui va toucher l'ombre et la lumière. Et vous devenez l'ombre et la lumière, et plus personne ne peut vous sauver. Il n'y a que vous-même qui arriverez à vous tirer de ce rêve, de cette chimère. Aucun Dieu ne peut venir vous chercher, parce que vous êtes Dieu vous-même. Donc aucun autre n'aura la supériorité sur vous pour venir vous aider et vous obliger à ne plus croire et à sortir de là. C'est de là que vient le libre arbitre. Réfléchissez encore à cette notion. Aujourd'hui, les gens sont très contents de se dire ésotéristes, d'avoir quelques connaissances. Ils disent « Ah oui, il y a des grandes lois, il y a le karma, oui, oui. » Ah, puis il y en a encore une de loi qui est encore plus sympathique, mais je ne sais pas si elle est si bonne que ça, parce que tout bien réfléchi, elle fait bien des dégâts, c'est le libre arbitre. Mais pourquoi tu es libre? Est-ce que tu t'es déjà fondamentalement posé cette question? Réfléchis à ce que l'on te dit. Et quand tu ne trouves pas la réponse, viens me la demander. Ah bon? Je peux te poser la question? J'entends les esprits dire, mais oui, tu peux me poser la question. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas m'entendre? Forcément, si tu écoutes en toi la surdité qui te dit, tu n'entends rien, tu n'entends rien, tu n'entends rien, tu entendras quelque chose. C'est cette surdité qui te dit que tu n'entendras pas. Mais si tu entends ta surdité, cela prouve que tu es capable d'entendre quelque chose. Donc, si tu entends le négatif, si tu entends le vide, tu peux aussi entendre la voix de Dieu. Mais pour cela, il faut que tu aies le cœur pur. Tu n'as pas besoin d'être un grand disciple, d'avoir tout compris, d'être un grand initié. Tu n'as pas besoin de t'ouvrir les veines pour être quelqu'un à qui par récompense la connaissance sera donnée pour grand service à l'humanité. Tu n'as besoin que d'être toi. L'enfant, comme a dit Jésus, l'enfant pur et simple. Prends-moi plutôt comme un copain, au lieu de dire « Ouh, celui-là, c'est un maître. Ouh, j'en suis sûre. J'ai mon pouls qui s'accélère, j'ai mes oreilles qui brûlent, mon coronal qui s'excite. On est en présence d'un maître, c'est certain, tous mes chakras et mes voyants lumineux me l'indiquent. » Si c'est comme cela que tu te ressens et que tu me ressens, je dois dire que le tableau est fort amusant. J'ai jamais vu autant de cliquetis. Rassure-toi, ce n'est pas moi qui excite tes chakras. Ce n'est pas moi qui agite des lumières. Ce n'est pas moi qui crée des couleurs. Ce n'est pas moi qui fais ces choses. C'est toi. Toi parce que tu t'ouvres à moi. Toi parce que tu t'ouvres à toi-même. Alors quand tu t'ouvres, toi qui as l'habitude d'être fermé, automatiquement il te semble que tous tes volets s'ouvrent et se ferment dans une grande joie. Ou il te semble que tous tes chakras, comme un feu de Bengale, se mettent à tourner, à tourner, à tourner, et que c'est la fête. Et mon Dieu, que c'est bon de sentir cette fête en soi. Mais moi je n'ai rien fait. Moi je ne dois me mêler de rien. Je ne suis là que pour parler. Je n'ai pas le droit de toucher les auras, je n'ai pas le droit d'exciter les glandes, je n'ai pas le droit de propulser votre divinité sur vous. Je n'ai pas le droit, en fait, de vous regarder vivre et de vous dire ce qu'est la vraie vie. Pour vous stimuler à cette ouverture et que vous puissiez véritablement vous regarder. Et en vous regardant, arriver à me regarder moi aussi et comprendre qu'il n'y a pas un disciple et un maître, qu'il n'y a pas un être non évolué et un être évolué, qu'il y a tout simplement des grands amis qui pendant certains âges se sont crus ennemis. Et puis pendant un autre âge, il y en avait un qui se savait l'ami et l'autre qui se croyait toujours l'ennemi. Alors celui qui se croyait l'ami a simplement esquivé les coups pour ne pas les renvoyer. Et puis il y a un autre âge, l'âge où justement les deux savent qu'ils sont amis et qu'ils sont égaux. Mais revenons à cette liberté dont je parlais. Pourquoi êtes-vous libre? Encore une fois, est-ce Dieu qui a dit « Bon, eh bien, ces petits hommes-là qui sont sortis de ma cuisse, la cuisse à Jupiter, bien sûr, J'ai décidé, puisqu'ils sont faits à ma ressemblance, puisque peut-être un jour ils arriveront à être mes héritiers, bon, je vais être grandiose aujourd'hui, magnanime. Oui, voilà. Je vais leur donner la liberté. Voyons ce qu'ils feront avec. Mais je suis sûre qu'avec le sexe, qu'avec la bouche, avec le goût, avec l'appétit, je suis sûre qu'avec les oreilles, qu'avec leur sens tactile, ils n'arriveront jamais, mais jamais à être moi. Moi, je suis le seul à être moi et qu'on est beau quand on est moi. Si vous imaginez que la liberté vous a été donnée comme un piège, vous êtes obligé de penser à Dieu de cette façon-là. C'est la pure logique. Or, vous le savez, Dieu n'est pas comme cela. S'il n'est pas comme cela, analysons alors ce qu'est la liberté et pourquoi vous êtes libre. À celui qui peut recevoir ma pensée directement, sans essayer de me comprendre, mais en essayant simplement de me recevoir, je dirais, tu es libre parce que tu es Dieu. Ressens cela. Tu n'es pas libre pour que tu fasses tes preuves face à Dieu. Tu es libre parce que tu es Dieu, tout simplement. Tu vois, on y revient toujours. Tu es éternel parce que tu es Dieu. Tu es libre parce que tu es Dieu. Et comment est-ce que Dieu pourrait créer une autorité sur lui-même? Il est Dieu, il se connaît, et il est sa propre autorité. Si l'on imaginait un Dieu et puis une autorité, c'est comme si vous, vous imaginiez que vous vous levez le matin, que vous allez à votre travail, prenons une entreprise, vous êtes le chef de cette entreprise, et puis vous vous amusez, puisque la création, l'incarnation sont là, vous vous amusez à être une personne lorsque vous vous levez le matin et une autre personne lorsque vous êtes dans votre entreprise. Et vous avez un malin plaisir à faire tout le contraire de ce que vous aviez prévu le matin en vous levant. C'est votre joie d'être masochiste, n'est-ce pas? C'est votre joie d'être ce chef d'entreprise qui va faire tout le contraire de ce que le disciple avait prévu en se levant le matin. Et comme c'est bien, comme c'est bon, comme on est heureux et content de se battre. Mais comme il se trouve que l'on est le seul à être les deux personnes, lorsque le chef d'entreprise va faire une erreur, que le disciple ne sera pas content, sur qui va-t-il taper? Il faudra donc que le disciple prenne un marteau ou une pierre et qu'il se tape lui-même puisqu'il est aussi le chef d'entreprise. Un jeu stupide, n'est-ce pas? Ça ne tient pas debout. Et pourtant, c'est le jeu que les hommes jouent tout le temps. Tout le temps, sans arrêt. Tout au long de leur journée. J'ai envie de ceci. J'ai envie de cela. Mais que c'est mal, mais que j'y vais quand même. Et après, comme je m'en veux. Et après, comme je vois le karma arriver. Et quand il arrive, ouh là là, que ça fait mal. Alors le disciple ne comprend pas, et il a raison. S'il est Dieu, et s'il est si fondamentalement libre, pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de se saouler, de se droguer, de se goinfrer, et que cela ne lui fasse pas de mal? Comment se fait-il que se goinfrer, se saouler, se droguer soit contraire à l'état de la divinité? Fondamentalement, nous n'allons pas analyser les contraires. Nous venons d'y passer suffisamment de temps. Je dirais simplement que tout ce qui est un empêchement à l'épanouissement de Dieu devient par là même quelque chose de contraire à Dieu. Et pas parce que la chose est mauvaise en elle-même, mais parce que pour pratiquer la chose, l'entité que l'on pourrait appeler l'être est obligée de devenir l'inverse de sa divinité. Donc le problème n'est pas dans l'existence du bien et du mal. Le problème est dans le fait que pour pouvoir exercer le mal ou le bien, l'homme va devoir se réduire au bien ou au mal. Car le bien et le mal sont des mesures, pas des états. Pour donc exercer ces deux choses, il va lui falloir se réduire. Qui dit réduction de sa divinité. Et après, on lui parlera d'évolution. Après, on lui parlera de son moi suprême et puis de sa vilaine personnalité en bas, là, qui fait exprès de l'embêter, qui a plaisir diabolique. Mais je vous le dis, si vous restez sur des interprétations contraires et dualistes, vous ne pourrez pas ranger vos énergies comme il faut pour devenir une épée de science et de conscience et de vertu. C'est impossible. Vous perdrez votre temps dans les qualités et les défauts. Vous serez dispersés, épuisés. Et puis c'est nous qui ensuite devons venir ramasser les morceaux, essayer plus ou moins de créer un destin, un karma avec tout cela, en vous remplissant un maximum de bénédictions, pour voir si malgré tout, malgré les tortures, malgré les défaillances, malgré les manques, si tout ça, ça tient quand même debout. Alors je vous le dis, une bonne fois pour toutes. Vous voulez être Dieu? Eh bien, soyez Dieu. Comment être Dieu? C'est une chose simple, nous venons d'en parler. Quand vous êtes en train de boire, pensez que c'est Dieu qui boit. Et si la boisson est mauvaise, automatiquement, vous allez éloigner la boisson de votre bouche. Vous n'arriverez pas à boire. Si maintenant, il s'agit de faire la fête entre d'autres dieux, parce que Dieu est content quand ils se rencontrent, c'est normal. Si vous voulez faire la fête, alors vous pouvez boire. Mais buvez au nom de la divinité, plus au nom de votre plaisir, ou au nom du péché, ou au nom de l'attachement. Faites de cet instant, faites de cette boisson, une hostie de partage. Ce qui fait que, même si vous buvez un mauvais alcool ou de la ciguë, rien ne saura entamer ni votre santé, ni vos vibrations. Faites de tout une hostie que vous partagez, soit avec les autres, soit avec votre propre Dieu intérieur, soit avec le grand mouvement qu'est la vie à l'extérieur de vous et que vous louez, que vous remerciez pour le phénomène extraordinaire qu'elle crée. C'est quand vous séparez la vie de la forme que vous créez la mort. C'est donc quand vous mangez un fruit en ne pensant qu'il n'est qu'un fruit, que ce fruit n'est plus une nourriture et qu'il peut encrasser votre corps et qu'il peut même vous détruire s'il n'est pas bon ou qu'il n'est pas le fruit que vous devez manger. Si par contre, vous mettez toujours de la vie dans la forme, donc Dieu partout, donc vous-même, votre substance partout, alors tout devient hostie. Que vous avaliez un morceau de caillou, une cuisse de poulet, une tranche de pain ou quoi que ce soit d'autre. Tout devient éminemment divin. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez tout manger parce que vous ne détruisez rien. Vous transformez la vie. C'est complètement différent. Vous libérez une vie de sa forme et vous lui permettez d'aller vers une autre forme. On parle souvent de l'abomination qui est de tuer l'animal et de manger l'animal. Celui dont l'esprit est encore archaïque se dit « Mais il ne faut pas tuer l'animal, le pauvre petit lapin, dans sa belle fourrure en angora. Il ne faut pas tuer le mouton est si gentil. Il n'a rien fait à l'humanité. Il ne faut pas tuer le cochon. Il est inoffensif lui aussi. C'est très mal de tuer les animaux et c'est encore plus vilain de les manger. » Il vaut mieux, bien sûr, pour l'évolution du monde, penser comme cela que ne pas penser du tout, c'est certain. Mais si vous voulez penser juste et penser bien, il ne faut même plus penser comme cela. Il faut penser que tout est nourriture. L'animal, comme la fleur, comme les légumes, comme les céréales, comme tout ce qui vit sur la terre. Tout est nourriture. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de choses que vous tuez afin de survivre. Parce que ce sont des choses invisibles. Quand vous arrachez un poireau, vous savez que vous l'arrachez. Quand vous tuez un lapin, vous savez que vous le tuez. Parce que ce sont des éléments qui se voient. Mais quand vous respirez l'air, qui est déjà un peu plus subtil, est-ce que vous avez l'impression de tuer une entité? Non. Vous dites, mais l'air, il y en a, et à revendre. Et pourtant, l'air est votre première nourriture. Et vous tuez les molécules quand vous les respirez. Dans vos poumons, il se passe exactement la même transformation que dans un cœur nucléaire, un générateur. Vous cassez les molécules, les particules, et vous les transformez en éléments de vie. Ce qui fait que dans votre corps, dans votre sang, ne circule pas ce que l'on appelle l'oxygène et les autres éléments qui l'accompagnent. Il circule une substance complètement différente qui est l'énergie de l'oxygène, qui est l'énergie de ces autres gaz qui accompagnent l'oxygène. Vous ne respirez pas de l'oxygène, c'est faux. De l'oxygène, de l'air, entre par vos narines, c'est vrai. Descend jusque dans vos poumons, c'est vrai, mais dans vos poumons, il n'existe plus d'air. Grâce à la chaleur qui environne le poumon, et cette chaleur est créée par le corps lui-même, cette chaleur est transportée par le sang lui-même, il y a exactement comme en physique nucléaire, une cassure de la particule, la molécule d'air. Et de cette cassure, une énergie fantastique est libérée. Et c'est comme cela que l'air que vous respirez se transforme en ce que vous appelez le prana. Vous êtes-vous demandé déjà ce qu'est le prana? Ou vous dites, oui, bon, ben, le prana, ça doit être quelque chose qui arrive avec l'air, qui est dans l'air, des petites globules qu'on ne voit pas, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas, mais on ne va pas les renier. Le prana n'existe pas. Le prana, ce n'est pas quelque chose qui vient de quelque part. Si vous essayez de comprendre, d'analyser vraiment les énergies qui proviennent du soleil, puisque l'on dit que le prana vient principalement du soleil, eh bien vous verrez que le soleil n'est pas en train de soulever un pan de sa sphère pour dire, eh bien là, j'envoie tant de mètres cubes de prana, parce que les hommes en ont besoin. Le prana se moque complètement du soleil, il n'y pense pas, il ne le conçoit pas, il ne le crée pas. C'est l'homme qui crée le prana. Un premier prana est créé lorsque l'énergie solaire entre en contact avec la couche de l'atmosphère. Là, il y a une première dynamisation des particules de vibration. Puis, ces vibrations, ayant subi une première transformation, s'accolent ou se mélangent, sans vraiment se mélanger et s'accoler, mais disons, ça interpénètre avec l'air ambiant et les différents gaz ambiants, ou soit les différentes formes de vie à rayonnement. Mais pour prendre le prana qui aura pénétré soit ces molécules, soit ces formes de vie, il va falloir que l'homme casse la molécule, sinon il ne peut pas avoir du prana. Avez-vous déjà vu un cadavre respirer? Ça n'existe pas. Pourtant, si un cadavre pouvait respirer, il arriverait à se tenir en vie, parce qu'il arriverait à capter le prana, à fabriquer du prana. Ce qui fait que même si le corps était dépourvu d'âme, le corps continuerait d'exister. Or, cela ne se fait pas. Tout simplement parce que le corps ne respire plus. La fonction cesse et le prana ne peut plus revitaliser la chair. Donc,